Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 16 juillet, 118 personnes au moins ont perdu la vie en Allemagne et en Belgique avec ces inondations catastrophiques. C'est un bilan provisoire. Un nouveau glissement de terrain près de Cologne a encore eu lieu ce matin. Nous serons du côté de Coblence où les réfugiés sont accueillis et près de Liège en Belgique où la décrue s'amorce doucement. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Et il pleut encore dans le nord-est de la France.
Bah oui, forcément, par répercussion, on a encore des pluies en Allemagne, donc on en a aussi en France. Alors un petit peu moins quand même. Pour autant, nous avons toujours 11 départements qui sont placés en vigilance orange pour les crues. Ça va du nord jusqu'à l'Alsace. Ça glisse aussi un petit peu vers la Saône-et-Loire et vers le Jura. On a encore quelques pluies orageuses. Il y en aura encore cet après-midi entre l'Alsace et la Corse. C'est un ciel bien chargé avec des averses de la Lorraine à la Bourgogne et au Massif central. Pour les autres, quand même, donc sur une large moitié ouest et dans le sud, eh bien, c'est le retour du soleil avec des températures à l'identique par rapport à hier. 21 degrés à Lille cet après-midi, 22 à Besançon, 25 à Paris, 27 pour Agen, 31 à Montpellier.
Éric Dupond-Moretti, depuis 3h30 dans le bureau des magistrats de la Cour de Justice de la République. Le ministre de la Justice qui se dit serein est interrogé sur un éventuel conflit d'intérêts. Il risque une mise en examen. Le Covid met plus que jamais nos vacances sous pression. L'Agence européenne des maladies prévoit 5 fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août. La 19e étape du Tour de France, enfin du plat entre Mourinx et Libourne. Le peloton vient tout juste de s'élancer. Mourad Djabari, bonjour.
Bonjour, effectivement, c'est une longue ligne droite de 207 km à travers les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde. Un départ depuis Mourinx donné il y a quelques secondes depuis le vélodrome nommé Eddy Merckx, la légende, le cannibale et ses 34 victoires sur le Tour de France qui est avec nous aujourd'hui. Il était au village de départ ce matin. Alors, c'est une coïncidence, un pur hasard, mais cela se transforme aujourd'hui comme un rendez-vous avec l'histoire parce que ce soir, Mark Cavendish, le sprinter, pourrait dépasser Eddy Merckx et remporter sa 35e victoire sur le Tour de France où les deux hommes, le maillot vert, le bolide de l'île de Man et le cannibale, se sont pris longuement dans les bras sur la ligne de départ, peut-être pour un passage de flambeau.
Et on retrouvera Christophe Paco dans un quart d'heure RTL chez vous. Enfin, on s'offrira une visite de la Tour Eiffel. La Dame de Fer rouvre enfin après 9 mois de fermeture. La question du jour sur RTL.fr, elle concerne nos relâchements face au Covid. Poignée de main, bise, respectez-vous toujours les gestes barrières? Eh bien, vous êtes 71% à nous dire oui, il y a 26% de non. J'attends vos appels au 3210. J'aurai le plaisir de dialoguer avec vous entre 13h et 14h.
RTL Midi.
Le ministre de la Justice interrogé par des magistrats, c'est l'image du jour. Éric Dupond-Moretti est arrivé ce matin un peu avant 9h à la Cour de Justice de la République qui juge les ministres en fonction. Il est interrogé sur un possible conflit d'intérêts. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de son poste de ministre pour se venger de magistrats auxquels il s'était frontalement opposé dans sa carrière d'avocat sur certains dossiers. Cindy Hubert.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas la mine de quelqu'un qui allait perdre son poste. Il est arrivé sans empressement et avec un grand sourire aux lèvres.
Serein, mais particulièrement déterminé. Le ministre de la Justice, il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous.
Cela fait donc déjà 3 heures qu'Éric Dupond-Moretti est sur le grill. L'interrogatoire pourrait se finir tard. Les magistrats ont beaucoup de questions à lui poser. Et le garde des Sceaux ne va pas se laisser faire. Le 1er juillet dernier déjà, le climat était très tendu quand les juges avaient débarqué à la chancellerie. La perquisition avait duré près de 15 heures. Alors aujourd'hui, on peut imaginer la tension à l'intérieur de la CJR. D'autant qu'Éric Dupond-Moretti connaît bien les magistrats assis en face de lui. C'était dans une autre vie quand Dupont, l'avocat, secouait les cours d'assises. Et c'est précisément ce qui se joue aujourd'hui. Le ministre a-t-il utilisé son poste pour régler ses comptes dans des dossiers qu'il a eu à traiter en tant que pénaliste? Ce soir, Éric Dupond-Moretti pourrait donc ressortir avec une mise en examen.
Oui, effectivement, s'il devait être mis en examen, il garde le soutien d'Emmanuel Macron au nom de la présomption d'innocence. Des paysages dévastés par la furie de l'eau. Le dernier bilan, malheureusement très provisoire encore, des intempéries en Allemagne et en Belgique fait état de 118 morts, dont 103 en Allemagne. En particulier en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans l'ouest du pays. Un glissement de terrain ces dernières heures près de Cologne a emporté des dizaines de maisons. Il ne reste qu'un vaste cratère dans lequel se déversent des masses de terre, d'eau brune et de débris. C'est la conséquence de cette vague qui déferle désormais entre Coblence et Cologne. Samuel Goldschmidt, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Andernach, près de Coblence, qui accueille les réfugiés d'autres villages. Ils vous ont raconté leur cauchemar.
Oui, Marie Gonnat a 22 ans. Elle est réfugiée ici avec sa maman, son papa et ses deux frères. Elle vient de Bad Neuenahr. C'est au débouché de cette vallée de l'Ahr où nous étions hier. L'agglomération s'est prise de plein fouet. Toute la vague descendue des montagnes. Et elle raconte la nuit d'hier dans leur appartement.
L'eau est montée quasiment jusqu'au deuxième étage. On n'aurait pas dû rester. On ne pouvait pas fuir. On ne pouvait qu'espérer que l'eau baisserait peut-être. À 2h du matin, c'était encore très haut. On a attendu jusqu'à 8h et on a pu s'échapper. On ne voulait surtout pas rester. La maison est entièrement ravagée. Tout est envahi de boue. Tout est détruit. On ne voulait surtout pas revivre ça. On a donc atterri ici.
Elle raconte avec calme. Elle souhaite même s'extérioriser sur cette nuit avec les encouragements de sa maman qui pleure doucement en entendant le témoignage de sa fille.
On a espéré. Moi, je dis qu'on a regardé la mort au fond des yeux toute la nuit. On s'est tous dit, bon, aujourd'hui, nous allons mourir. Parce qu'on sentait la maison bouger. On voyait pas loin des maisons emportées. En fait, on s'était quasiment résigné à mourir.
C'est le cauchemar effroyable de milliers de familles dans ce bourg. C'est là, à Bad Neuenahr-Ahrweiler, qu'on dénombre ce matin 50 morts et 1300 personnes dont on n'a pour l'instant pas de nouvelles.
Samuel Goldschmidt, en Belgique, les inondations ont fait au moins 15 morts, en particulier en Wallonie, cette région francophone au sud du pays. Des dizaines de routes sont inondées, il n'y a pratiquement plus de trafic ferroviaire. Franck Hanson, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Liège. Dans la région, l'eau commence à se retirer tout doucement et on découvre un spectacle de désolation.
Oui, des amoncellements de voitures dans les rues, des torrents d'eau ou de boue qui ont tout dévasté. Des habitants hagards qui ont encore du mal à évaluer les dégâts. Dans les bas quartiers de Liège, les sinistrés comme Dominique sont résignés. Dans la maison, on ne tient plus.
Nous autres, on est là dans les chambres du premier depuis 36 heures. L'eau s'évacue, mais très, très, très lentement. On a eu jusqu'à 2,50 m d'eau dans notre rez-de-chaussée. Il n'y a plus rien, plus un meuble, plus un papier, plus rien à récupérer. C'est la catastrophe, catastrophe, monsieur.
Au moins, on est vivant quand on voit les victimes.
On est vivant et j'ai sauvé mon chien.
Toute la nuit, les évacuations se sont poursuivies avec parfois des embarcations de fortune ramenées par des bénévoles, des pneumatiques, des jet-skis. Les pompiers belges ont aussi reçu des renforts de leurs voisins français. Le colonel Philippe Desormeaux du service d'incendie et de secours du Nord.
Oui, il y avait urgence puisqu'il y avait encore des personnes qui étaient en difficulté depuis 48 heures. On a procédé à 40 évacuations, donc 31 adultes, 8 enfants. Ouais, c'est surtout dangereux. Et c'est aussi dangereux pour les gens qu'on rapatrie, quoi, parce qu'il faut les sécuriser, gilets de sauvetage, voilà, pour pas qu'il y ait de suraccident. Il y en a qui n'avaient même plus de quoi s'hydrater ou de s'alimenter.
Partout en Wallonie, des habitants attendent encore d'être secourus. Mais leurs vies ne sont pas en danger, assurent les autorités. Le roi et la reine sont attendus cet après-midi à Pépinster, l'une des communes du royaume les plus sinistrées.
Franck Hanson à Liège pour RTL. Une bonne nouvelle en France. Un retour à la normale se profile dans l'Est, notamment en Alsace, où il a davantage plu depuis 6 mois que durant toute l'année 2020, d'après les statistiques de Météo France. Dans un instant, on va voir s'il existe ou pas un traitement contre le Covid.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Plus de 3 millions de personnes ont pris rendez-vous pour se faire vacciner depuis le tour de vis d'Emmanuel Macron. Une étude publiée par l'adresse, la direction statistique des ministères sociaux, conclut que 94% des personnes testées positives début juillet n'étaient pas vaccinées. Et avec le vaccin, il y a 4 fois moins de risques d'attraper le Covid. Mais existe-t-il des traitements ? Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, vantait ce matin sur RTL les bienfaits de l'ivermectine.
Il a bloqué des soins qui sont enfin reconnus, comme l'ivermectine, qui est enfin reconnu, alors je le dis depuis des mois. Ici même, vous m'avez critiqué parce que j'ai défendu l'ivermectine. Heureusement que je l'ai défendu. Ça a sauvé des milliers de vies.
Nicolas Dupont-Aignan avec Benjamin Sportouche. Alors, on a voulu vérifier à Gatlandais, qu'en est-il exactement ?
Alors, en fait, l'ivermectine, c'est un traitement antiparasitaire que l'on utilise depuis longtemps, qui est bien toléré. On le prescrit pour soigner des infections digestives. Et récemment, des études cliniques ont été lancées pour évaluer son efficacité, donc, contre le Covid. L'ivermectine est un peu présenté depuis comme le remède miracle sur les réseaux sociaux, un petit peu comme l'hydroxychloroquine. Oui. Et d'autant plus, avec la publication, il y a quelques jour d'une étude de l'Institut Pasteur que nous analyse Bruno Mégarban, professeur de médecine intensive et réanimation.
Récemment, un travail expérimental de qualité effectué sur le hamster montrerait une amélioration d'un certain nombre de paramètres cliniques. Néanmoins, ceci reste des études expérimentales de hamster, ce qui est loin de l'homme. Et donc, à ce jour, il n'y a aucune évidence pour administrer ce traitement et espérer un quelconque bénéfice concernant la Covid-19.
Ce traitement semble donc efficace si on le prescrit à 18 hamsters dorés. En revanche, les études sur l'homme ne sont pour le moment pas concluantes. D'ailleurs, l'OMS déconseille toujours aujourd'hui la prescription de l'ivermectine contre le Covid.
Et ça n'a donc pas sauvé des milliers de vies, comme le disait Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure. Merci Agathe. La prudence reste de mise. Le masque redevient obligatoire dans les Pyrénées-Orientales en extérieur, sauf sur la plage. L'Agence européenne chargée des maladies prévoit un fort rebond de l'épidémie dans les prochaines semaines, avec près de 5 fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août. On a vu Brigitte Macron au défilé du 14 juillet faire la bise à des ministres, certes avec un masque mais tout de même. Alors, avez-vous repris cette habitude? Est-ce que vous vous relâchez vous aussi sur les gestes barrières? J'attends vos témoignages au 32-10. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, porte plainte. Depuis l'annonce lundi des nouvelles restrictions sanitaires, plusieurs députés soutenant ces mesures font l'objet de menaces de mort. Patricia Mirales, la députée LREM de l'Hérault, a reçu le message suivant. C'est des vraies balles que vous allez vous prendre. Faites attention où vous allez. Fin de citation. Elle dénonce un niveau de violence inadmissible.
Lors des manifestations des Gilets jaunes, nous avions reçu des lettres, des menaces de mort, mais avec une telle virulence, j'avoue que c'est la première fois. Ça laisse penser jusqu'où peuvent aller certaines personnes aujourd'hui. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes enfants. Effectivement, mes enfants sont inquiets. Je les ai rassurés en allant déposer plainte, mais ils me connaissent, ils savent que je plierai pas. Donc moi, j'ai tout donné à la police et puis on verra, mais il faut que ça cesse. Des menaces de mort envers des élus de la nation, mais même envers une personne lambda qui prend une position, c'est inadmissible. Ça ne m'arrêtera pas et je continuerai dans ce sens. Je continuerai à rester debout et puis je vais vous dire, je vais aller jusqu'au bout de mes pensées. Je préfère mourir moi et sauver des milliers de vies.
Patricia Mirales, interrogée par Jacques Seret, cet élu par ailleurs souffre d'un Covid long. Emmanuel Macron, lui, poursuit son tour de France. Il est en visite à Bagnères-de-Bigorre, là où il passait ses vacances chez sa grand-mère. Il visite en ce moment une usine qui fabrique des rames de métro. Un photographe de l'agence Reuters tué ce matin en Afghanistan. Il couvrait des combats entre les forces de sécurité afghanes et les talibans près d'un poste frontière avec le Pakistan. Danish Siddiqui était lauréat du prix Pulitzer. À 132 ans, elle reprend du service. La Tour Eiffel reçoit de nouveau des visiteurs après 9 mois de fermeture. C'est la plus longue parenthèse de son histoire en dehors des périodes de guerre. Et les premiers touristes sont déjà là, Arnaud Touche.
Oui, il patiente dans une file qui fait maintenant une bonne centaine de mètres parmi les visiteurs. Des touristes étrangers, bien sûr, mais des Français aussi, comme Marilyn, venue de Schirmeck, en Alsace.
En fait, on est en vacances. On a décidé de passer nos vacances d'été à Paris et on vient visiter la Tour Eiffel.
Des vacances bien souvent en famille, comme pour François.
C'est une vieille dame, mais qui ne change pas.
Il est arrivé de Namur aux Aurores.
Je suis venu 3 jours avec ma fille Louise pour découvrir Paris. Oui. Nous sommes arrivés ce matin et donc nous commençons par la Tour Eiffel.
Un classique
et voilà, une chose qu'elle voulait absolument voir et on commence par là.
Et c'est donc une mission réussie.
Elle est grande, ça fait bizarre.
Tu l'imaginais plus grande, plus petite que ça?
Plus petite.
Est-ce que la Tour Eiffel, elle fait toujours rêver aujourd'hui?
Je pense. On ne sait pas venir à Paris sans voir cette Tour Eiffel, bien sûr.
Y compris les Belges.
Bien sûr, bien sûr.
Mais attention aux abords de la Tour Eiffel, les pickpockets et vendeurs à la sauvette sont de retour également. Le monument le plus connu de France accueillera 10 000 personnes chaque jour, c'est autant que l'été 2020. Et les visiteurs devront porter le masque dans les escaliers et présenter un pass sanitaire à l'entrée.
Arnaud Touche en direct de la Tour Eiffel, merci. Deuxième vague de départ en vacances, bison futé hisse le drapeau orange dès aujourd'hui. Quelles sont les premières difficultés, Sarah Loubacouche?
Pour l'heure, rien d'extrêmement compliqué. À midi, le pic de bouchons culminait à 360 km. C'est bien moins que le week-end dernier. Mais tout n'est pas optimal pour autant. Les difficultés, elles sont surtout concentrées évidemment en vallée du Rhône. Déjà, pour passer la métropole lyonnaise, il faut être un peu patient. Puis ensuite, quand vous descendez en direction du soleil, eh bien, c'est toujours un peu compliqué. De Lyon jusqu'à Orange, de grosses difficultés à Valence. Dans l'autre sens, c'est à hauteur d'Orange justement que vous êtes ralenti pour vous qui venez de Narbonne, de Nice sur la 9 ou bien du sud aussi par la 7 et que vous remontez de vers Lyon. Un accident vient de se terminer après la liaison entre ces deux autoroutes, entre la 7 et la 9. Votre temps de parcours, il est allongé d'une petite demi-heure. On vous souhaite quoi qu'il en soit beaucoup de courage sur les routes aujourd'hui.
Dans un instant, nous partons sur la route du Tour entre Mourenx et Libourne, une étape de sprinter RTL chez vous avec Christophe Paco.
RTL. Voilà. Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Et on vous retrouve, Christophe, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Christelle. RTL chez vous, à Mourinx ce midi pour une longue étape de plat en direction de Libourne, au nord de Bordeaux. Rencontre du jour, question du jour, histoire de la grande boucle, le coup d'oreille du Parisien, sans oublier le coup de cœur de Laurent Jalabert. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous avec le meilleur coureur du peloton aujourd'hui. Maillot jaune, maillot rouge, on ne sait pas, il a toutes les couleurs. Salut monsieur Claude.
Salut, comment ça va?
On dit Claude de Koh-Lanta toujours?
On peut dire Claude d'Artois, on peut dire Claude de Koh-Lanta.
Les gens vous adorent. C'est fou cette cote de popularité sur le tour.
Eh ben oui, j'ai pu voir que les gens me soutenaient. J'essaie de leur rendre en étant disponible et c'est vrai que c'est plaisant.
C'est quoi votre rapport avec le vélo? C'est l'enfance? C'est les petits trous sur les côtés ou c'est mieux que ça?
Non, c'est mieux que ça. C'est vrai que j'ai toujours jamais eu la chance d'avoir des vrais vélos. Je prenais des biclous qui traînaient un peu à gauche à droite en vacances et je partais sur les routes. Je me faisais mon Tour de France à moi tout seul et puis des fois je me mettais une petite accélération en m'imaginant les exploits de Jalabert et tous. Mais et réellement j'ai toujours aimé le Tour, j'ai grandi avec, je prenais vraiment le temps de les regarder, les étapes. Donc c'est vraiment pour moi des souvenirs d'enfance, on prend le temps d'apprécier.
Vous avez parlé de Laurent Jalabert qui est notre consultant, il va être ravi. C'est vrai que c'est un beau souvenir, le panda, c'est quoi? C'est le maillot bleu blanc rouge, c'est les poids?
C'est son maillot jaune sur le Tour, c'est sa victoire avec son maillot vert au 14 juillet. Ouais, il y en a beaucoup. Laurent Jalabert c'est un puncher, j'ai toujours aimé parce que voilà, et c'est pas le grimpeur, c'est pas le sprinter. Mais voilà, c'est un peu le Sagan d'avant.
Merci Claude, c'est un bonheur de vous avoir.
Merci, franchement c'était top. Puis voilà, et bravo à tous d'être venus sur le Tour pour soutenir tous ces beaux champions.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
Le coup d'œil aujourd'hui de Laurent Jalabert. Bonjour Laurent.
Bonjour.
On fait le bilan, 6 victoires déjà sur la grande boucle en 2 ans, 3 maillots distinctifs comme l'an dernier pour Tadej Pogacar, jaune, blanc et petit pois. C'est un sacré petit cannibale, le garçon.
Ah, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Il a énormément de talent et puis surtout beaucoup d'ambition. Il ne laisse rien. Ça rappelle, bien sûr, dans une autre époque, Eddy Merckx qui courait après tout la montagne, les sprints intermédiaires, les arrivées d'étapes et bien sûr les classements généraux et ses nombreuses courses qu'il a remportées de multiples reprises. On est à une autre époque. Le cyclisme s'est mondialisé, mais Pogacar, peut-être, c'est dû à son jeune âge. Il a faim. Il veut tout avaler. Il laisse pas beaucoup de miettes pour les autres et il faut quand même qu'il se méfie parce que quelquefois quand on est trop gourmand, quand on est goulu, ben on finit par s'étouffer.
Et si jamais ça continue à sourire, Laurent Jalabert, il pourra peut-être régaler lui aussi un jour, qui sait, le grand Eddy Merckx qu'on surnommait lui, le cannibale bien sûr.
Ouais, la marche est haute mais il est bien parti pour.
Laurent Jalabert, on se retrouve ce soir, 18h30, 19h.
Oui, pour le club Jalabert.
Que vous adorez, 18h30, 19h, ce sera Christian Olivier.
À tout à l'heure.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous et sur la route de Libourne ce midi. Nous retrouvons notre confrère, l'excellent spécialiste cyclisme du Parisien. Aujourd'hui en France, Christophe Bérard, bonjour à vous.
Salut Christophe, j'aime quand on me dit que je suis excellent, j'aime cette lucidité, merci.
Mais on peut le dire, avec un Cavendish qui en plus qui va nous régaler aujourd'hui. 5e succès à venir sur le Tour, 35e victoire pour dépasser définitivement Eddy Merckx.
Vous savez quoi Christophe, j'ai envie d'être le passe-à-pas du jour, j'ai envie de vous dire non, pas pour cette fois. Sincèrement, le peloton est épuisé. Il n'y a qu'une seule équipe qui intéresse que ça arrive au sprint, c'est les deux Koenig. Je ne suis pas certain aujourd'hui que s'il y avait quand même quelques courageux à qui il reste des forces, une dizaine d'échappés, ils n'arrivent pas au bout. Aujourd'hui, Mark Cavendish ne battra pas le record d'Eddy Merckx. C'est compliqué. En revanche, ce serait encore plus beau s'il le battait sous l'Arc de Triomphe. Ce serait magnifique. Mais voilà, pour Libourne, j'ai envie de penser que le scénario écrit, établi d'un nouveau sprint, où évidemment, il serait archi favori, mais je n'y crois pas.
Merci Christophe Bérard. Bonne route aujourd'hui en direction de Libourne.
Merci Christophe.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
Et Morad Jabari est venu à votre rencontre ce midi à Mourinx pour justement parler de Cavendish, savoir s'il va réussir ou non à dépasser le grand Eddy Merckx. Et vous, qu'en pensez-vous?
Peut-être, il a l'occasion de le faire. Donc, mais je crois qu'une époque n'est pas l'autre. Hein. Donc, mais il faut lui reconnaître que revenir sur un mois en compétition et prendre le maillot vert, c'est quand même un exploit. Chapeau bas.
Je pense que c'est même une certitude. Il va tout faire pour et vu son âge, vu son parcours, il mériterait de battre le record.
Aujourd'hui, je ne sais pas, mais il lui en reste deux. Donc il est probable et possible qu'il arrive à le dépasser. Parce que les Champs-Élysées, en général, c'est sprint. Donc il y a de fortes chances, vu le nombre de personnes qui restent en tant que sprinter, que Cavendish soit favori pour au moins dépasser Merckx.
RTL.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
La grande histoire de la grande boucle. Avec vous, Christian Laborde.
Libourne, qui accueille le Tour de France pour la 4e fois, est la ville natale de Michael Delage. Delage, au départ, c'est la piste. Il décroche en 2003 le titre de champion de France de poursuite par équipe avec Fabien Patanchon, Cédric Agez, Jonathan Mouchel et un certain Mathieu Ladanius, infatigable rouleur. Michael Delage, sur la route, remporte à deux reprises la Roue Tourangelle. La Roue Tourangelle, quel nom merveilleux, celui d'une danse. D'où l'envie chez Michael Delage de faire valser les soquettes. Que fait-il sur le Tour de France, Michael Delage? Son boulot d'équipier. Il est le poisson pilote du sprinteur Arnaud Démare. L'équipier peut être un ami, comme Pierre Barbotin, serviteur fidèle de Louison Bobet. Et l'on se souvient de Milan San Remo en 1951, 100 bornes d'échappée. Premier, Louison Bobet. Deuxième, Pierre Barbotin. L'équipier peut être de luxe, comme Jean-François Bernard. Son leader, Miguel Indurain, calé dans sa roue, JFB impose en 1994, dans les premiers kilomètres de Otakam, un infernal tempo qui vient à bout des Italiens. Puis Indurain passe devant et le tour est gagné. L'équipier est généreux, le leader l'est aussi, qui, en 1961, amène le sprint au Parc des Princes pour son équipier Robert Casala, Jacques Anquetil.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Bonne route, la course, toutes les demi-heures, avec Christian Olivier, Morad Djabari et Nicolas Georgerot sur la moto pilotée par Alain Risseau. Plus que jamais, même à moto, même à petit vélo, vous êtes bien sur RTL.
Mon vélo. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo, Bardi. Vous êtes un blagueur, est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon.
Ah, les pépites de notre ami Christophe Paco. Dans un instant, la météo de Valérie Quintin qui s'améliore enfin.
RTL.
Valérie Quintin pour cette météo qui nous donne enfin un peu d'espoir.
Ah bah disons que ça s'améliore. On a encore des pluies dans le nord-est à l'heure qu'il est, mais elles sont de moins en moins intenses en général. Quelques pluies en Lorraine, en Alsace. 11 départements du nord-est restent toujours en vigilance orange pour des risques de crues et donc d'orages, notamment en Alsace. Mais ailleurs, sur le nord, l'ouest ou encore le sud du pays, ça s'améliore très nettement avec le retour du soleil. Alors à Paris, il va falloir être un petit peu patient. Dans la région centre, dans le Loiret, donc également aussi, il faudra attendre encore quelques heures, mais ça viendra. Tout cela avec des températures qui se maintiennent, qui sont relativement agréables quand même. 22 degrés à Reims et à Metz cet après-midi, 24 à Lyon, 25 à Paris, 26 degrés à Nantes, 27 pour Toulouse, 29 degrés à Marseille et 30 degrés à Nîmes.
Et alors ce week-end s'annonce estival, j'y crois pas.
Si, si, si. Alors je dis pas que ça va durer tout le temps, mais en tout cas ce week-end on est bon. Demain il y aura encore un petit peu de grisaille dans l'est et dans les régions centrales. Quelques averses dans le courant de l'après-midi en soirée entre l'Alsace, le Jura, la Bourgogne et sur la montagne Corse. Ailleurs un temps ensoleillé, des températures comprises entre 20 et 30 degrés sur la moitié nord, 22 à 33 au sud. Et dimanche c'est encore mieux, 28 degrés de moyenne pour la moitié nord, 31 pour la moitié sud et juste quelques orages sur le relief alpin et corse dans le courant de l'après-midi. Sinon c'est du soleil partout.
Et ben voilà, enfin, quand vous voulez. Merci, merci beaucoup Valérie. Il est 13h sur RTL.